Bonjour à tous. On est très heureux de passer 3 jours avec vous. On arrive d'Avignon ce matin. Pour nos vies, pour votre vie, quel que soit demain votre appel, soit le mariage ou le célibat, cette question du mariage, de la sexualité, de la vie conjugale, est un point qui est un marqueur très important de nos vies. Et demain même de votre ministère, si vous êtes par exemple prêtre ou sœur ou laïc consacré, engagé dans l'apostolat. Pourquoi c'est important? Parce que ça rejoint une grande intimité de nos vies, de nos cœurs. Et nous savons très bien, vivant dans ce monde en 2017, combien la question de la sexualité, du mariage, de la vie conjugale est magnifique, mais pose également d'énormes problèmes. Et est occasion de beaucoup de souffrances. Et sûrement parmi vous, il y en a qui sont blessés intimement par rapport à cette question-là, par rapport à leur famille, par rapport à leur histoire. Et donc, en introduisant ces deux carrefours, on va plutôt traiter la question du mariage, de la vie conjugale cet après-midi, de la sexualité demain. On veut simplement mettre en perspective, en introduction, pourquoi ce qui est aujourd'hui l'acte le plus libre qui soit. Je veux dire, peut-être que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne choisissaient pas forcément leur conjoint, leur mari ou leur femme. Aujourd'hui, on n'est pas plus libre de choisir son conjoint. On n'est pas plus libre de prendre toutes les étapes nécessaires pour faire le choix. Et pourtant, on se choisit librement, très librement. Et pourtant, tant de vie conjugale, tant de familles, tant de mariages finissent par une séparation ou par un divorce. Ça a un côté insupportable. En tant que chrétien qui essaye d'avoir le souci que du bonheur des gens, de leur joie, c'est une situation qui n'est pas tolérable. Et qu'il nous faut traiter. Et donc on va essayer d'aller au cœur de la question, de pas le traiter superficiellement avec du côté bisounours, spirituel, chamallow, etc. Bien sûr qu'on va parler de théologie, bien sûr qu'on va parler d'appel de Dieu, mais on va essayer d'aller au cœur de la question. Pour que dans vos vies, dans vos appels, vous soyez vraiment éclairés sur l'appel de Dieu et sur le pourquoi c'est si difficile de réaliser ce à quoi on aspire profondément. Les enquêtes disent cela, c'est quel est votre projet de vie le plus important dans votre vie, voilà. Eh ben c'est à 80%, c'est 80% de la population, donc pas que des cathos, hein, pas ceux qui viennent à Paris. 90%, 80% des gens, je crois 85% des jeunes de moins de 35 ans, aspire à fonder une famille, un homme avec une femme fidèle pour la vie, éduquer les enfants, les accompagner, aussi en tant que grands-parents. Et ça, c'est le projet que porte l'Église. C'est le projet qui est inscrit en nous. Et pourtant, les statistiques sont terribles pour des couples aujourd'hui qui se mettent sérieusement ensemble. La projection statistique montre que entre 7 à 9 couples sur 10 ne finiront pas leur vie ensemble. Ça veut dire que la question aujourd'hui n'est pas savoir si jamais aujourd'hui les gens vont divorcer ou pas, c'est quand est-ce qu'ils vont divorcer. Et donc, votre génération est concernée au premier chef. Et vous aspirez à vivre un grand bonheur. Vous aspirez à vivre un grand amour. Vous voulez le construire. Vous savez que ça va pas être difficile. Et donc on va essayer ensemble de comprendre, de voir quelles sont les clés pour vraiment, entre guillemets, réussir notre amour, notre mariage, notre famille, afin que nos enfants aient un papa et une maman qui restent unis pour leur vie. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Et donc, pour essayer de traiter la question du cœur du mariage, il faut revenir à un évangile. Jésus n'a pas tellement parlé du mariage. Mais dans un évangile de Matthieu, au chapitre 19, Jésus, par rapport à une discussion avec les pharisiens, renvoie pour comprendre le mariage aux origines. Moïse a autorisé le divorce, mais aux origines, il n'en était pas ainsi. Et Jésus rappelle, au travers d'une citation, de versets à la fois de Genèse 1 et de Genèse 2. Donc Jésus n'est pas en train de dire, la Bible raconte une belle histoire, etc., mythique. Non, il est en train de dire, dans l'histoire, dans le présent, dans l'incarnation, pour comprendre le mariage, revenez à ce qui est dit dans le texte de la Genèse. On pourrait dire beaucoup de choses. On va essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, vous le savez sans doute, pourquoi l'Église respecte tous les hommes, c'est parce que tout homme est à l'image de Dieu. Mais ce qui n'est pas souvent connu, c'est que le texte de la Genèse dit également que l'image de Dieu est dans le couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de la vie conjugale, c'est la vie divine, c'est la vie de la Trinité, c'est la circulation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour prendre une image, ça veut dire que la mesure de la vie conjugale, c'est un amour atomique, extrêmement intense. Et donc, notre norme, notre génétique conjugale, c'est Dieu lui-même. De même, en Genèse 2, on voit Adam, vous connaissez tout ce récit, Adam qui se retrouve seul, qui est pas bien, Dieu se rend compte que s'il est pas bon que l'homme soit seul, et il crée Ève, je passe sur la création de Ève, et à ce moment-là, Adam découvre Ève. Alors il a un cri qui monte de ses entrailles, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc c'est un cri de joie. Je ne sais pas si vous êtes amoureux, je ne sais pas si vous avez utilisé cette déclaration d'amour, mais nous n'utilisons pas tellement cette forme-là. Mais en tout cas, elle exprime combien c'est une joie qui vient des profondeurs. C'est une joie immense et qui va se traduire. Justement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. On l'abordera demain, la question de la sexualité. Mais c'est pour ça que la sexualité, on peut le déjà dire, est sainte. Est sainte dans le sens où elle illustre au niveau des corps et de l'incarnation la communion d'amour, de joie, d'unité des cœurs et des âmes de l'homme et de la femme. Donc c'est pour leur la mesure de la vie conjugale, c'est vraiment cette intensité-là. Donc quand vous aspirez surtout à vos âges, vous aspirez vraiment à un grand amour, vous avez raison. Vos parents ou vos aînés sont peut-être aux quelques heures de vol et donc sont un peu déçus et donc émoussés dans leurs désirs ou leurs attentes. Mais vous portez cette énergie, cette soif, et elle est juste parce qu'elle vient de Dieu. La question, c'est que Genèse 3 rapporte l'épreuve du péché, la trahison d'Adam et Ève avec Dieu. Et la conséquence de ce détachement d'Adam et Ève vis-à-vis de Dieu, qui ont voulu être comme Dieu, eh bien, c'est une rupture d'amour avec Dieu et c'est une rupture d'amour entre Adam et Ève. Et Adam et Ève et chacun de nous derrière ne s'en ont jamais remis. Notre génétique, c'est l'amour. Notre génétique, c'est la Trinité. Si nous nous coupons de notre source, nous nous coupons de notre vie, et nous en sommes malades. Et c'est pour ça que tous les hommes, toutes les femmes, sont marqués par cette profonde maladie d'amour. Comprenez, petit exemple, petite analogie, comme si jamais on était un poisson fait pour vivre dans l'eau. Et puis le poisson dit, moi je vais être fort, je peux vivre dans l'air. Et donc je vais dans l'air. Mais le poisson, il est fait pour vivre dans l'eau, pas dans l'air. D'autant qu'il vit dans l'air, il est mal. Il est très mal. Il va chercher des palliatifs. Il va prendre peut-être des bonbonnes d'eau, je sais pas quoi, pour survivre. Mais tant qu'il retourne pas dans le milieu originel qui est l'eau, il est mal toute sa vie. Voire il meurt. Il en est de même pour nous. Notre génétique, c'est Dieu. Notre génétique, c'est la Trinité. Nos racines, c'est la vie divine. Et quand on est déraciné, eh ben on le vit mal, comme ce petit poisson. Et c'est pour ça que tout homme, toute femme est marqué, retenez ça, par trois grandes blessures. Trois grandes blessures d'amour. Je ne m'aime pas. Je n'arrive pas à aimer l'autre, et particulièrement mon conjoint. Et je ne me sens pas aimé. Et puis, je n'arrive pas à aimer Dieu, ou alors je me fais plein d'images sur Dieu, du père Fouettard, ou de ceci, ou de cela, etc. Et ça, ça pourrit notre vie. Ça pourrit notre vie, et on est malade de cela. Illustration. Qu'est-ce qui conduit le monde aujourd'hui? Le sexe, le pouvoir et l'argent. Vous ramenez les déviances de l'humanité globalement tôt ou tard à ça. Ça veut dire quoi? Quand j'ai de l'argent, plus j'ai de l'argent, plus je suis aimable. Et donc plus j'ai de l'argent, plus tu vas m'aimer, parce que tu as besoin de moi. Le pouvoir, c'est pareil. Et le sexe, pour le sexe. On traitera de la pornographie après-demain. Mais plus je tombe dans le sexe ou dans le porno, etc., j'ai un câlin qui me permet de tenir jusque dans une heure, ou peut-être jusqu'à demain matin. Pourquoi le monde est aussi, je dirais, pourri de l'intérieur par cette pornographie qui sonne de partout? On peut le voir de manière morale, négative, mais on peut le voir de manière spirituelle. C'est parce que tout le monde aspire à aimer et à être aimé. C'est complètement dévoyé, mais la racine, elle est là. C'est qu'on a besoin d'être aimé. Et ça, vous comprenez que c'est tout le combat qui est entre chacun de nous. Cette aspiration sainte, cette nature sainte, bénie par Dieu. Et ce péché qui pourrit tout, qui pervertit, qui gauchit. Et à ce moment-là, on n'a pas cette unité. Et on est blessé. Et donc, toute cette situation est très douloureuse pour nous. Donc forcément, quand nous vivons et que nous allons entamer une relation amoureuse ou une relation conjugale, ce péché, ce gauchissement va perturber profondément notre relation. Et c'est d'ailleurs bien ce que disait saint Paul. On peut l'appliquer à la vie conjugale. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Saint Paul, Romains, chapitre 7. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent de gaieté de cœur? Oh, mais c'est pas vrai. Oh, j'en trouverai une autre. Oh, j'en trouverai un autre. À 98% des cas, 99% des cas, la séparation d'un couple est quelque chose de dramatique. Pour chaque personne concerné, c'est dramatique. C'est un projet de vie essentiel qui s'effondre d'une manière ou d'une autre. Et donc les gens ne se séparent pas de gaieté de cœur. Ils se séparent parce que la souffrance est trop importante. Donc ils voulaient faire le bien. Ils voulaient réussir leur couple. Ils voulaient aimer l'autre. Ils voulaient construire un bonheur pour eux, pour leurs enfants. Et pourquoi on arrive sur un mur ? C'est là où, en revenant au texte de Matthieu 19, c'est très intéressant. Parce qu'il y a cette discussion de Jésus avec les pharisiens sur le divorce, et les disciples sont là, ils disent rien. Et puis apparemment, au verset 8-9, on se retrouve le soir où Jésus, surtout avec les disciples, et les disciples, ils prennent Jésus par la main. Ils disent, Jésus... par la main, par la manche, en disant, Jésus, attends, explique-nous un peu là. Au regard de ce que tu nous dis, de la Genèse, du rapport de la Genèse, mais il n'y a pas intérêt à se marier. Il dit ça explicitement à Jésus. Ça veut dire quoi? Les apôtres, ils étaient mariés, sauf Jean. Donc, faut pas leur raconter des belles histoires, bisounours, sur la question du mariage, hein. Donc Jésus, ton plan mariage là, de la Genèse là, il est complètement foireux. C'est même pas la peine d'essayer, c'est ton plan mariage, il est mort d'avance. D'où ils disent, il n'y a pas intérêt à se marier. Donc première surprise, disciples, les colonnes de l'Église, les apôtres, qui disent à Jésus, le mariage, ton plan mariage, ça sert à rien. C'est pas possible, c'est théorique. Première surprise. Deuxième surprise, c'est que Jésus ne les contredit pas. Il vient de rappeler la norme du mariage, et il les contredit pas. Il dit, ben vous avez raison. Sauf si cela vous est donné. Sauf si jamais cela vous est donné, répond-il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réussir son mariage, dit Jésus, réussir le mariage selon le dessein du Père et de Dieu éternel, selon notre génétique, entre guillemets, pour reprendre cette image, ça ne dépend pas que de nos petits bras musclés. Ça ne dépend pas que de notre volonté. Ça dépend également d'un don. Et ça a été le commentaire du pape Jean-Paul II pendant un an de ce verset pour expliquer que ce don, c'est Jésus lui-même. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver l'homme. Peut-être de ce qui vous reste un peu de votre catéchisme, vous savez que par le baptême, nous sommes sauvés personnellement. Eh bien, par le sacrement de mariage, c'est notre couple qui est sauvé. Et ce sacrement de mariage, c'est ce don que Jésus cite dans cet évangile de Matthieu. Donc, notre dessein, notre génétique, notre, c'est comme ça qu'on est fait. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi, si mais je veux dire, mais j'aimerais avoir quatre bras. Ben non, il vaut mieux que t'assumes d'avoir deux bras, parce que tu pourras jamais avoir quatre bras. Eh ben, c'est pareil par rapport au mariage. On peut contester ceci ou cela, mais c'est comme ça qu'on est fait. C'est notre Créateur, il nous a créés comme ça. Et pour réaliser ce plan, étant donné l'œuvre du péché, qui a tellement pourri de l'intérieur, miné de l'intérieur, ce dessein éternel, ce dessein tellement de joie, d'exultation, Jésus vient le sauver, Jésus vient nous guérir, Jésus vient nous libérer. C'est ça la clé. Et c'est ça qu'on vient avec vous essayer de développer. C'est la clé pour comprendre d'où on vient, à quoi on est appelé, et par quoi Jésus nous appelle, par quoi, par qui Jésus nous appelle, par lui-même, pour vraiment vivre de notre mariage. Et on veut souligner, et c'est malheureux, que trop souvent encore dans l'Église, on traite un peu de la question du mariage de manière un peu bisounours, un peu gentillet. Le sacrement du mariage, c'est un sacrement de salut, de guérison, de restauration. Et donc, nous, en tant que mariés, nous sommes appelés à vivre ce sacrement, pas parce qu'on est des parfaits. Maud le prendra tout à l'heure. C'est vraiment pour nous restaurer et justement réaliser ce à quoi on aspire si profondément. Et Jésus va nous y aider. Jésus va s'impliquer dedans.
Alors vous me direz, comment est-ce que le sacrement de mariage peut agir dans nos vies? Le sacrement de mariage, c'est un sacrement de salut, comme Alex l'a dit. Il sauve le couple. Mais comment sauve-t-il le couple? Ce n'est pas magique. C'est comme si je disais que votre baptême vous sauve. Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on goûte ce salut? Évidemment, on le goûte dans une relation à Dieu, vous imaginez bien, puisque c'est l'auteur de nos vies, il sait mieux que tout autre comment nous fonctionnons, et lui seul peut nous aider à trouver ce chemin de l'amour. Mais nous avons besoin de passer par ce chemin de guérison, de conversion, de croissance, de découverte de nos humanités blessées, de le reconnaître et d'avancer avec ça. Alors vous me direz, le sacrement de mariage, il y en a beaucoup qui l'ont reçu, ils se séparent quand même. Et oui, parce qu'on a oublié aussi un élément essentiel. Et on a mis longtemps à identifier cette question-là. Jésus en parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, quand ce fameux épisode où Nicodème, un sage, vient de nuit pour qu'on voit pas trop qu'il pose des questions à Jésus, lui demander comment faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Il répond, il te faut naître de nouveau, et de l'eau, et de l'esprit. Eh bien, on va appliquer ça à nos couples. Tu vois, Seigneur, nous sommes amoureux ou nous sommes mariés. Nous n'arrivons pas à nous aimer. Comment pouvons-nous faire naître notre couple de nouveau? Comment pouvons-nous goûter à cet amour que tu nous promets et auquel nous aspirons? Et Jésus nous répond, il vous faut vivre et de l'eau et de l'esprit. Vivre de l'eau, c'est recevoir par la grâce le sacrement, recevoir la vie de Dieu, lire la parole de Dieu, se nourrir, tout ça on sait bien faire dans l'Église en général. Vivre de l'esprit, alors ça, comme dirait le pape François, c'est une sorte d'invertébré gazeux que personne ne connaît. Or l'Esprit Saint est celui qui va permettre que Dieu agisse en nous. Donc c'est pas juste pour quelques cinglés et charismatiques. L'Esprit Saint, il est pour toute personne qui veut se livrer à l'action de Dieu. Le pape François nous le dit souvent. Dieu agit en nous par l'Esprit Saint. Et c'est lui qui fait que notre sacrement de mariage ne va pas rester une belle photo sur la cheminée, mais va agir au quotidien dans nos vies. Et va se mettre à être efficace et puissant pour nous permettre de nous aimer. D'où la question importante de travailler sur cette acquisition de l'Esprit Saint, comme disait Séraphime de Sarov. Acquérir l'Esprit Saint, c'est le but de la vie chrétienne. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, c'est comme si, le jour de votre mariage, vous receviez une superbe voiture. Elle est dans le garage. Elle est magnifique. Alors, Mercedes, je sais pas quoi, j'y connais rien en marque de voiture, donc vous mettrez votre rêve. Et sauf que vous n'avez pas la clé de contact. Donc vous allez vivre toute la journée, toute la vie avec cette magnifique voiture que vous ne pouvez pas utiliser. Eh bien voilà ce qui se passe pour beaucoup de sacrements de mariage. Ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne se sont pas vivifiés par la vie dans l'esprit. Et donc on peut pas s'appuyer sur ce sacrement. Tout ce qu'on dit là, on peut le dire évidemment de tous les sacrements. Pour le baptême, c'est pareil. Et donc, le Seigneur nous appelle à vivre une vie puissante dans l'Esprit Saint pour goûter au bonheur auquel nous aspirons. Alors, une deuxième petite remarque. Beaucoup pensent que le sacrement de mariage, ou en tout cas le mariage, c'est pour les gens bien. Erreur. Erreur totale. Jésus l'a dit lui-même. Vous pouvez retrouver en Luc 5, par exemple. Je suis venu, non pas pour les gens en bonne santé, mais pour les malades. Autrement dit, si nous avons conscience que nous sommes fragiles, si nous avons conscience que nous sommes incapables de nous aimer, si nous avons conscience que nous essayons désespérément de faire plaisir à l'autre et qu'il le prend pour un scude et que ça fait des histoires et qu'il faut se réconcilier, qu'il faut 3 jours pour retrouver la paix entre nous, si cette expérience vous dit quelque chose, alors vous êtes capable de dire au Seigneur, je suis faible Seigneur, je suis un bras cassé, je suis handicapé par ma blessure, par mes histoires, par mon péché, peu importe. Et donc Seigneur, tu es venu pour moi. Et donc le sacrement de mariage, comme dit le pape François, il est donné à ceux qui savent qu'ils en ont besoin. Qu'ils en ont besoin pour s'aimer. Et que c'est pas un mariage civil avec quelques petits rites religieux, une jolie robe pour que ça fasse très beau. C'est pas ça le problème. Nous avons besoin d'être plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour arriver à nous aimer. Pour arriver à faire en sorte que notre couple soit durable, et non seulement durable, mais qu'il puisse croître dans l'amour. Ça, c'est le troisième texte que je voudrais aborder. Le texte de Cana. Je pense que vous l'avez entendu de nombreuses fois, mais on va juste le revisiter un peu. Cana, c'est une noce, premier miracle de Jésus. Il est là avec ses disciples. Les mariés se réjouissent, et au bout de quelques heures, il n'y a plus de vin. On va le dire, en termes bibliques, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de vin? Il n'y a plus d'amour. Eh bien voilà la loi du monde. Au début, on s'aime, c'est naturel. Dès qu'on voit l'autre apparaître, on a le cœur qui bat. Il est trop beau, il est trop si, elle est trop belle. Enfin bon, je dis à sa place. Hein. Voilà, ça coule à flot, spontanément, naturellement. Et puis quand on commence à rentrer dans la vie conjugale, à rentrer dans les mois ensemble, à se découvrir, on arrive à ce moment où on bute sur nos fragilités, où on se fait mal, où on se heurte, où on se blesse. Et à force d'user l'amour, eh bien parfois il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vin, il reste parfois de la piquette, voire de l'eau. Et c'est ce qu'on entend des couples. Je n'ai plus de sentiments pour elle, pour lui. Nous n'avons plus d'amour. On se sépare parce qu'on s'aime plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que notre capacité personnelle à aimer a pris fin. Il faut 3 mois, 3 ans, parfois un peu plus. Mais il y a un moment où nos petits bras, notre petite volonté ne suffit pas à aimer l'autre jusque dans ses fragilités, jusque dans ses tics, jusque dans ses trucs épouvantables, insupportables, que nous avons tous. Eh bien, c'est là où la bonne nouvelle de l'Évangile est claire. Jésus dit de remplir les jarres d'eau, les jarres, des grosses jarres de 600 litres, de quoi saouler un village pendant des heures et des heures.
Des jours et des jours,
oui, plutôt. Il fait remplir ces jarres d'eau. Les pères de l'Église ont vu dans ces jarres toute notre bonne volonté, la prière, la communication, le jeûne. On fait tout ce qu'on peut pour dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous ta grâce. Notre bonne volonté, comme petite Thérèse, on se met en bas de l'escalier et on lève notre petit pied en appelant Jésus, Jésus, Jésus. Et puis, on puise l'eau et le vin est meilleur que celui du début. Et le maître de la noce dit au Christ, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'habitude, on donne le bon vin d'abord, et puis quand tout le monde est sous, on passe la piquette, personne ne voit plus rien. Tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Eh bien voilà la bonne nouvelle du mariage. Quand on se laisse sauver par Jésus, le meilleur vin est pour demain. Toujours pour demain. Le meilleur vin est pour après. Et donc quand on est amoureux à ne plus savoir qu'en faire, quand on est jeune, eh bien nous, on peut vous dire, avec nos 35 ans de mariage, vous n'avez rien vu. C'est juste le début. Quand on arrive à passer par ces moments où le Seigneur nous sauve, nous guérit, nous reconstruit, nous redonne un amour plus intense, alors on peut continuer à être amoureux 35 ans après. On peut continuer à aimer l'autre encore plus justement, plus précisément, plus intensément. Mais si c'est pas une bonne nouvelle, ça. L'amour en crescendo, voilà ce que Jésus nous a donné comme programme. Au lieu de l'amour en décrescendo que nous voyons étalé dans tous les journaux, les people et les machins. Nous avons une inversion complète de la loi de l'amour. Si nous laissons Jésus intervenir et nous sauver, alors le meilleur vin est pour demain. Et j'espère que vous ne direz jamais que le jour de votre mariage était le plus beau jour de votre vie, parce que sinon c'est dramatique pour la suite. On va juste dire que c'est le premier des plus beaux jours, mais il y en aura encore des plus beaux derrière, que vous n'imaginez pas, mais que le Seigneur veut nous donner, parce que sa joie, c'est que nous nous aimions, et qu'à chaque fois qu'on s'aime, c'est l'image de Dieu qui est rendue visible sur cette terre. L'image de l'amour qui est donné à voir autour de nous.
Un témoin comme ça de dernier, il y a quelques 3 semaines, 4 semaines.
un couple de 44 ans de mariage. On a rarement vu un couple aussi amoureux. Ça a été vraiment... ils ont pas fumé un pétard. Ils ont accueilli la puissance du salut du Christ et le feu de l'Esprit Saint. Et ils ont passé une année extraordinaire. Et à les voir et à les entendre témoigner, ça pétillait dans leurs yeux. Où ils ont réglé tellement de passifs qu'ils avaient depuis des années et des années. Ah, c'était des bons couples cathos parfaits, hein. Tout allait bien, extérieurement. Et intérieurement, il y avait tellement de souffrance, tellement d'incompréhension. Et parce que, justement, c'est comme à Cana, le bon vin est pour la fin, même après 44 ans de mariage. Ah, je vous dis pas après 30 ou après 20. Tout ça pour vous dire aussi que, pour prendre un peu de recul, nous vivons un temps très difficile, très douloureux pour le couple, pour la famille. Et vous en êtes bien conscients sûrement. Mais ce temps que nous vivons est un temps également de profonde bénédiction. Beaucoup de spécialistes reconnaissent que jamais l'Église depuis 2000 ans est rentrée dans une intelligence du mariage, de sa compréhension, de la grâce du mariage, comme aujourd'hui. Le cadeau que nous avons eu avec Jean-Paul II qui a fait la lecture théologique, comme jamais depuis 2000 ans, les théologiens ont compris le mystère du mariage, le fonctionnement du mariage, le fonctionnement, la grâce de Dieu dans le mariage. Donc, nous vivons un temps de profonde épreuve, et tout à la fois, nous rentrons, et vous rentrez, dans cette intelligence de la grâce de Dieu, dans les outils, entre guillemets, de la grâce, pour que justement, vous puissiez vivre de magnifiques mariages. Mais pas les mariages à la Belle au Bois Dormant. Des mariages qui forcément seront marqués, sont marqués par le péché, par l'épreuve, par l'incompréhension. Mais Jésus nous aide à traverser cela. Nous aide à guérir. Et donc c'est pour cela que on voudrait avancer dans cette compréhension du mariage. On l'a souligné, la grâce de salut du sacrement. Mais également que le mariage est un appel et une vocation spécifique. Et déjà les pères de l'Église, et déjà Saint Paul soulignait combien le mariage est saint. Saint Paul soulignait combien c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est pas une petite bricole, c'est pas une vocation au rabais. Saint Jean Chrysostome, un très grand père de l'Église, chantre du mariage chrétien, il disait « Jésus-Christ, uni à l'Église, n'en est pas moins uni avec son Père, mais il en va de même pour les époux. C'est pas parce qu'on se marie avec son mari ou avec son conjoint qu'on est moins avec Dieu. Jésus, il était donné aux hommes, il n'était pas moins donné à son Père. » Et effectivement, l'Église, qui a été très marquée dans les derniers siècles par le jansénisme, même si on en est sorti, on l'abordera un peu demain, et aussi vendredi pour les filles, qui vraiment a jeté une opprobre sur le mariage et sur la sexualité. Et effectivement, finalement, le mariage, c'était autorisé parce qu'on faisait des enfants et qu'on pouvait donner des sœurs ou des curés à l'Église, quoi. Même, c'était un péché toléré. Un moment dans la conception théologique du mariage et la sexualité. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'Église, Jean-Paul II, lors du jubilé des familles en l'an 2000, a tapé du poing sur la table. Beaucoup de chrétiens réduisent le mariage chrétien à un mariage civil saupoudré de quelques rites religieux. Il faut pourtant le hisser au niveau de ses réalités spirituelles, sinon on ne comprend vraiment rien au mariage chrétien. Et parce qu'effectivement, pour beaucoup, y compris dans l'Église, on ne comprend rien au mariage chrétien. Pourquoi il y a tant de mariages chrétiens, de ces grands mariages, qui sont complètement inefficaces? Parce que nous n'avons pas été enseignés sur la grâce, sur le mystère, sur l'œuvre de Dieu au cœur de ce mariage. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard aussi que, après les premiers saints couples, Saint Marie, Saint Joseph, bien sûr, Saint Priscille et Aquila, qui nous sont très chers, collaborateurs missionnaires de Saint Paul, mais après, pendant 19 siècles, 20 siècles, plus de saints couples. Ah si, 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 il y a des saints couples, vous savez pourquoi? Parce que l'un a fondé un monastère et l'autre un couvent. Et qu'à un moment, ils se sont dit, bah voilà, c'est terminé pour nous, et donc ils deviennent finalement, l'accomplissement de leur mariage, c'était le célibat consacré et de l'un et de l'autre. Alors bon, ce sont les saints époux, mais c'est pas en raison de leur mariage. Et c'est Jean-Paul II qui a relancé vraiment les procès de canonisation pour des couples. Et vous savez sans doute que le premier couple reconnu saint dans l'Église, depuis 20 siècles, c'est Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse. Et donc, c'est pour illustrer que le mariage était vraiment une voie de sainteté, un appel de Dieu. Ce n'est pas un appel au rabais. Nous, au moment qu'on était fiancés, on se sentait vraiment, on voulait donner vraiment toute notre vie au Seigneur. Mais à ce moment-là, on disait, écoutez, voilà, il y a le rapide du célibat, et il y a l'omnibus du mariage. Donc c'est une conception théologique un peu particulière.
Aujourd'hui, on sait que le mariage, c'est aussi une voie de sainteté, puisque le Seigneur nous a largement éprouvé dans cette voie. Donc si on vous le dit, c'est qu'on l'a expérimenté.
Et c'est là où c'est très intéressant de voir combien le pape François, Benoît XVI, Jean-Paul II, trois papes très différents, mais qui ont vraiment la même orientation théologique, pastorale vis-à-vis du mariage. Et on veut souligner avec vous deux aspects dans les propos du pape François. On pourrait revenir, on pourrait passer deux heures rien que sur les citations des différents papes, mais vous soulignez la conception de ce que dit aujourd'hui le pape François, et donc de ce qu'il vous dit sur le fait que c'est une vocation, un appel de Dieu. Plusieurs choses. C'est une vocation à part entière, une véritable vocation comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse, comme le sont. Pas, bah oui, bon, la vocation c'est surtout le sacerdoce et la vie religieuse, et puis bon, bah le mariage peut-être aussi. Non, c'est comme. Donc la question n'est pas une hiérarchie des vocations, la question c'est du discernement de votre appel et de notre appel. Deuxièmement, le mariage, c'est pas simplement une bénédiction de votre amour. Le mariage correspond, dit François, à une vocation spécifique qui doit être considérée comme une consécration. Souvent, on vous dit, bon, alors, ceux qui veulent être consacrés à Dieu, ils vont à droite, ceux qui veulent être mariés, ils vont à gauche. Eh ben non, bah, les consacrés, c'est dans le célibat et dans le mariage. C'est une véritable consécration. Au regard de ce qu'on vous a dit précédemment, de l'œuvre du Christ dans le mariage, on le comprend bien davantage. C'est quoi votre vocation dans le mariage? Jean-Paul II, François le dit clairement. Ceux qui se marient ont reconnu l'appel du Seigneur à faire de deux personnes, hommes et femmes, une seule chair. Votre vocation, c'est une seule chair. C'est ça votre taf. C'est la communion. C'est la communion d'âme. C'est la communion de cœur qui passe par la communion du corps. Chacune des communions, cœur, corps et âme, servant les deux autres. Comme au sein de la Trinité. C'est une voie de sainteté également, dit François. Le mariage est une voie magistrale, pas une voie annexe. Pas un strapontin, une voix magistrale pour être des saints. Autre point, c'est un dessein magnifique, dit François. Un dessein magnifique. C'est pas simplement de dire, ah oui, moi j'aimerais tellement vivre ça, etc. Parce que humainement, j'y aspire, mais spirituellement, bah non, pas vraiment. Non, c'est un dessein magnifique de Dieu. Pour nous, pour toi, C'est un dessein magnifique. Vous n'êtes pas choisis par le Seigneur pour de petites bricoles. Allez toujours vers de grandes choses. Jouez votre vie sur de grands idéaux. Le mariage est un dessein magnifique. Ce que vous embrassez dans le mariage, simplement, être l'icône de Dieu. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu que Dieu porte à l'humanité. Dieu est communion dans les trois personnes, vivant à jamais dans l'unité parfaite. C'est le job, le travail du mariage, l'objectif du mariage. Alors ça aussi, c'est très très beau. La vocation du mariage va vous aider, homme, à être plus homme et femme à être plus femme. Souvent on se dit, ah oui, mais dans le mariage, je vais me perdre. Il faut que je me sacrifie pour l'autre, pour mes enfants, pour le travail, etc. La vocation de l'homme est de faire que sa femme soit plus femme, et que la vocation de la femme est de faire que son mari soit plus homme. Vous voulez vous réaliser en tant qu'homme et en tant que femme, mariez-vous. Ça, c'est sur l'aspect vocation. Chez François. Maintenant, la grâce du mariage chez François. Vous avez souligné surtout la grâce du mariage chez Jean-Paul II. Quatre choses. D'abord, c'est que, en tant que marié, vous êtes investi vraiment d'une mission. Jean-Paul II, lui, parle d'un ministère. Par la force du sacrement des époux, les époux sont investis d'une mission particulière qui consiste à manifester l'amour de Dieu au cœur du monde. Et il développe énormément cela en disant au cœur d'un monde qui est froid et dans lequel l'amour est absent ou est caricaturé. Notre job, manifester l'amour de Dieu parce qu'on est image de la Trinité elle-même. D'autre part, la grâce du sacrement va vous permettre de vaincre le mal et de vaincre et de soigner vos blessures. Vous vous sentez blessé? Votre histoire est douloureuse. Vos blessures familiales, personnelles sont douloureuses. Le mariage, la grâce du sacrement de mariage peut vous aider à les guérir, est un chemin de guérison. Le Seigneur vous donnera la force de comprendre que l'on peut surmonter le mal, que l'unité est plus grande que le conflit, qu'il est possible de soigner les blessures au nom d'un amour plus grand, cet amour qu'il vous est appelé à vivre dans le sacrement de mariage. Le Seigneur nous équipe par le sacrement de mariage, par sa grâce. Il nous équipe de ses dons pour guérir nos blessures, pour nous sauver. C'est pas des mots, c'est une réalité.
Alors, comment discerner sa vocation? Je sais que c'est une question que beaucoup se posent. Comment savoir où est-ce que le Seigneur nous appelle et avec qui? La grande question pour ceux qui veulent se marier. Plusieurs choses, quelques repères pour vous aider à avancer sur cette question. Premièrement, avant de choisir son état de vie, il s'agit de choisir le Christ comme la pierre d'angle de sa vie. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui est mon premier amour. Et sans lui, je ne peux rien faire. Jésus le dit dans l'Évangile, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans toi, Jésus, je ne peux pas aimer, je ne peux pas me réaliser, je ne peux rien faire. » Donc la première étape, c'est je choisis le Christ. Je choisis de cheminer avec le Christ. Et je sais qu'il m'appelle au plus grand des bonheurs, pour moi. Parce que Dieu nous promet à tous la terre promise, pour aujourd'hui. On ne sait pas à quoi elle ressemble, mais on sait qu'on y va tous. Et tout le monde marche. Et plus on est docile, plus on traverse le désert rapidement. Si on n'est pas docile, on fait comme les Hébreux, on tourne 40 ans dans le désert, alors qu'il fallait à peine 3 semaines pour le traverser. Donc ça veut dire que le Seigneur veut notre bonheur, et que pour entendre qu'elle est le chemin de bonheur qui est privilégié pour moi, il me faut d'abord me centrer sur Dieu. D'abord me dire, Seigneur, c'est avec toi que je veux faire ma vie. Je veux être saint. Ça veut dire que je veux trouver le bonheur dans la communion avec toi, parce que c'est cette communion-là qui va me permettre de retrouver ma génétique originelle et d'être libre d'être moi-même, d'arrêter d'être handicapée par mes blessures, mes addictions, mes problèmes de famille et toutes ces histoires que je traîne comme des boulets. Quand on dit que le Seigneur libère, c'est pas des mots, c'est du réel. Le Seigneur agit puissamment pour nous permettre d'être nous-mêmes tout simplement, de déployer ce que nous sommes. Et Jésus veut que nous soyons tous dans une vocation nuptiale, c'est-à-dire vivre un grand amour. Nous sommes faits pour l'amour. Jésus ne peut pas avoir envie d'autre chose pour nous qu'un grand amour. Et ce grand amour, il peut se réaliser dans deux vocations, comme l'a dit Alex, le mariage et le célibat, que les pères de l'Église appelaient les deux voies du mont Tabor, c'est-à-dire pour l'ascension du mont de la transfiguration. Il y a la face nord, il y a la face sud, les célibataires d'un côté, les mariés de l'autre, chacun sa voie, chacun ses épines, chacun ses problèmes. De toute façon, on va tous au même endroit, vers Dieu. Et donc, pour choisir sa vocation, il faut déjà être capable d'envisager les deux vocations. Rien de pire que de choisir une vocation par fuite de l'autre. On a toutes les chances de trouver un jour ou l'autre un os et de se dire « je me suis trompée ». On ne peut pas se tromper quand on essaye de grandir dans cette liberté. « Seigneur, je sais que tu veux le plus grand bonheur pour moi, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat. Eh bien, je suis prêt à l'un comme à l'autre. Dans le mariage, chouette, je pourrais vivre ça. Mais je pourrais pas être tranquille. Et les levées de nuit à 2h ou 3h du matin quand les enfants sont malades, ils auront moins de joie et de douceur que les vêpres ou les nocturnes chantées dans la solitude des monastères avec des voix magnifiques. Nous allons choisir deux voies. Donc qui dit choisir, dit renoncer. Je ne peux pas vivre les deux vocations en même temps. Et donc je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire dans l'une ou l'autre vocation. Mais je vais accueillir cette vocation pleinement pour moi. Et donc, si j'accepte de rentrer dans cette liberté par rapport aux vocations, je vais à ce moment-là regarder le réel de ma vie. Une vocation s'inscrit toujours dans le réel. Dieu nous donne des signes concrets. Si je me pose la question du célibat consacré, eh bien je vais faire des essais dans des communautés. Je vais avancer comme Abraham. Quitte ton pays, avance, marche, je t'indiquerai où je t'attends. Le Seigneur nous demande de nous mettre en route. On n'a pas un coup de téléphone de l'Esprit-Saint qui nous dit un bon matin, je te signale que tu vas te marier tel jour avec telle personne. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le réel. Je chemine avec soit l'idée d'une vocation, soit l'idée d'une autre, soit j'avance dans une relation affective et je discerne. Et je relis les fruits de l'Esprit. C'est une des clés de la vie spirituelle. Lire les fruits de l'Esprit dans vos cœurs. Qu'est-ce que telle situation génère dans mon cœur? De la joie? Du bonheur? De la paix? De la sérénité? Ou au contraire, du malaise, du trouble, de l'angoisse, de l'inquiétude? Pas les petites vaguelettes du dessus, mais celles du dessous. Ce discernement des fruits de l'Esprit, vous pouvez le faire dans toutes les circonstances. Et grâce à votre baptême, vous pouvez dire « Seigneur, au nom de mon sacrement de baptême, éclaire-moi sur ce que je sens au fond. Qu'est-ce que l'Esprit me dit ?» Et si je suis dans une voie qui est bonne, alors je vais goûter ces fruits de l'Esprit qui vont attester du passage de Dieu.
Je voudrais juste insister en tant que entre guillemets éducateur de jeunes chrétiens, mais d'abord comme papa et bien sûr avec Maud comme maman de 5 enfants qui ont accueilli effectivement dans leur adolescence vraiment le Christ comme le cœur de leur vie, les cinq enfants, et à partir du moment où ils ont vraiment accueilli leur Christ, on a insisté auprès d'eux de chacun en disant « Ayez le désir des deux vocations. Ne refusez pas a priori telle ou telle vocation. Goûtez les fruits de ce que peut être une vocation du célibat, une vocation du mariage, et le Seigneur vous parlera. Mais si a priori vous avez une résistance pour l'un ou pour l'autre, ça témoigne d'un manque de liberté et de foi dans le don de Dieu pour vous. Dieu veut un plus grand bonheur qu'on peut nous-mêmes imaginer. Donc ne pas lui faire crédit, ça pose un problème de notre foi. C'est tout à fait respectable. Tout à fait respectable, si on en est là. Mais c'est une invitation. Dieu veut notre bonheur. Et quand il nous appelle, c'est pour un bonheur bien plus important qu'on ne peut même imaginer. Et donc il est important d'être dans cette disponibilité d'esprit, dans cette liberté. Et puis le Seigneur parlera. Un jour, il éclairera. Mais d'avoir cette disposition de cœur est importante. Et nous l'avons dit à nos enfants. Et nous disons depuis maintenant 33 ans, vous avez vu le père Daniel Ange hier soir, il nous a appelé il y a 34 ans à le seconder dans la création de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière, et nous intervenons depuis 33 ans dans cette école. Et nous disons depuis 33 ans cet même propos. Et nous le disons également, puisque nous intervenons maintenant depuis 2 ans à l'école de Paray, c'est le même propos. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin de bonheur, c'est un chemin de liberté. Et que nous avons vraiment dit, Seigneur, c'est open bar maintenant. C'est à toi de nous guider. Bien sûr, je reste libre. Bien sûr, je reste libre. Mais cette disposition de cœur nous fait faire un grand pas dans la liberté d'enfant de Dieu.
Pour discerner sa vocation, c'est aussi un moment propice pour apprendre à savoir qui nous sommes. Au fond de nous, qui sommes-nous? Comment est-ce qu'on sait qui on est? On le sait déjà par la relation aux autres, par le don. Si on se donne, si on rend service, si on s'occupe de plus pauvres, de plus fragiles, on se trouve. C'est pas dans la tête qu'on cherche à savoir qui on est. C'est dans le réel de la relation. Et donc dans ces relations que nous allons vivre progressivement, le Seigneur va nous éclairer sur qui nous sommes. Et une autre étape importante de qui je suis, et qui fait partie en particulier de l'âge que vous avez, c'est de relire votre vie, de reconnaître avec lucidité ce qui vous a blessé dans votre histoire, ce qui vous a marqué, ce que vous voulez ou ne voulez pas reproduire. Vous êtes à l'âge du quitter son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire quitter son père et sa mère? Je ne peux pas m'attacher à l'autre si je n'ai pas quitté. Je ne peux pas partir dans une vocation si je n'ai pas quitté l'enfant que j'étais. Et donc je dois prendre le temps de relire. Parce que si je ne suis pas conscient de mes blessures, alors dans la relation avec l'autre, immanquablement, il appuiera sur les mauvais boutons, et là ça va hurler d'un coup, pour un événement anodin. Et la relation va être difficile, douloureuse, et on va se tromper de combat. On va penser que c'est l'autre qui est responsable de notre réaction, sans avoir eu le courage de regarder ce qui en nous a été abîmé. Ça ne veut pas dire que nous rejetons nos parents. Nous savons qu'ils ont fait souvent le mieux qu'ils pouvaient. Et nous, quand nous sommes parents, on sait à quel point nous sommes fragiles pour transmettre l'amour à des enfants. Nous ne sommes pas parfaits. Et un même événement peut être vécu sans problème par 4 enfants et il y en a un. Ça restera une blessure marquée à vie. Pourquoi ? On n'en sait rien. C'est le mystère de la personne. Mais si je ne commence pas ce travail de relecture et de guérison avant de choisir ma vocation, je peux aussi me tromper de choix parce que j'ai besoin d'être consolée, j'ai besoin d'être guérie et que j'en suis pas conscient. Alors je vais courir de relation affective en relation affective, juste pour être consolé. Rappelez-vous, le Seigneur nous veut libres, libres pour choisir. Et libre, ça veut dire que nous sommes capables d'être guéris, ou en tout cas de commencer ce processus de guérison, pour que nous soyons pleinement hommes, pleinement femmes, et libres de dire au Seigneur, « Ok, banco, je choisis ce chemin, parce que c'est le plus beau pour moi, et j'y vais. Et je suis heureux de répondre à l'appel du Seigneur. » Enfin, pour terminer sur ce propos de la vocation, vous comprendrez qu'aucune vocation n'est donnée pour soi-même. Elle est toujours donnée en vue du service des autres, en vue de la mission, en vue de la construction de l'Église. Toute personne, chacun d'entre vous, a sa pierre dans le mur de l'Église. Sa pierre est unique. Chaque couple a une pierre unique, à eux de la découvrir. Quel est notre appel, Seigneur? Quelle est notre vocation? Quelle est notre mission? En tant que célibataire, en tant que couple, j'ai un appel spécifique. Le Seigneur veut se servir de moi pour mes frères et pour l'Église. Et le pape François ne cesse de le dire. Tout baptisé est un disciple missionnaire. Tout couple est un couple missionnaire. Tout consacré est un consacré missionnaire. Pourquoi? Parce que quand on a fait l'expérience que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère, que Jésus console, que Jésus apaise, on ne peut pas se taire. On ne peut pas le garder pour nous. Et l'Église et l'Esprit Saint aujourd'hui appellent des couples à la mission et à la sainteté. Nous avons besoin de couples qui, dans ce monde, réconfortent ceux qui ne croient plus en l'amour, qui dans ce monde sont une lumière pour montrer à quel point, oui, c'est une grande aventure que de vivre à deux et de vivre jusqu'à la fin.
Nous vivons un temps très particulier de l'Église. Très particulier parce que depuis 70 ans, il y a comme une conjonction qui a conduit jusqu'à ces dernières années le pape François a lancé une vraie mobilisation universelle autour de l'évangélisation. C'était le synode sur la nouvelle évangélisation en 2012. Et puis 2014-2015, deux grands synodes, comme jamais dans l'Église, sur la famille, comme par hasard. Et son texte magnifique sur Amoris Laetitia. Jamais dans l'Église, les papes, les évêques ont sonné une mobilisation missionnaire des couples en tant que couple. Jusqu'à maintenant, même Jean-Paul II. La mission du couple, d'évangélisation, c'est auprès des enfants, voilà. Là, c'est les synodes, c'est-à-dire l'ensemble de l'Assemblée des évêques et le pape qui disent « Les couples, maintenant, c'est en première ligne que vous montez. » Parce qu'il en va de la crédibilité de l'Évangile et du rayonnement de Dieu lui-même au cœur du monde. C'est pour ça qu'il a invité à une profonde conversion pastorale. Et d'abord une conversion spirituelle. Et la conversion spirituelle, on en a souligné certains éléments. Si vous êtes appelé au mariage, vous avez à vivre profondément l'expérience profonde de ce qu'est le mariage, de salut, de guérison. À le goûter, à en goûter les fruits. Mais vous imaginez cette bonne nouvelle pour le monde, le monde aspire à cela. Qu'on soit croyant ou non croyant, on aspire tous à réussir notre couple. Et nous, Jésus nous donne la clé. Jésus nous fait comprendre pourquoi on n'y arrive pas. D'où on vient, où on va, pourquoi on est fait, quelle est notre génétique et comment il peut opérer dans nos cœurs. C'est pour ça que François nous a dit « Je veux que l'Église soit un hôpital de campagne. » Et il faut que ce soit un hôpital de campagne pour nos couples, pour nos vies adolescentes ou de jeunes blessés par la sexualité, dévoyés, tout ce que vous voulez, etc. La facture, elle est hyper lourde. Et Jésus vient guérir. Et il nous mobilise là-dedans. Il nous mobilise d'abord pour qu'on en fasse l'expérience, pas de la théorie, d'abord l'expérience pour nous. En tant que jeune, en tant que jeune célibataire, en tant qu'ado, en tant que jeune marié, en tant que fiancé, l'expérience profonde, bouleversante, que Dieu agit, guérit, et nous conduit sur les terrains qu'on ne pouvait pas imaginer. Et que quand l'exultation d'Adam et Ève, pour la vie, c'est possible, et c'est possible en crescendo. Vous êtes invités à ça. Nous sommes invités à ça. Et nous sommes invités à en être contagieux. Parce que le monde crève d'amour. Le monde crève de trouver la solution pour vivre la vie conjugale à laquelle il est fait. C'est le petit poisson dans l'eau, là. Il faut qu'il revienne dans l'eau. Il faut les aider à remonter dans l'eau. À remonter ou à retomber dans l'eau. Enfin bon, vous avez compris. Je pense au petit saumon qui remonte la rivière. Donc, c'est une magnifique vocation. C'est une grâce de guérison. Et c'est un appel merveilleux dont le monde a besoin, dont vous avez besoin pour votre vie, mais dont tous ceux qui vous entourent ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Parce qu'il y a peu de choses aussi réjouissantes que cela. L'évangile de Cana, le bon vin qui est pour la fin, ça c'est réjouissant. Alors que le monde te dit, hey, t'en profites au maximum parce que ça va vite se dégrader. Hein. C'est une loi complètement inverse. Donc si vous êtes d'accord, on va finir ce propos en priant pour vous et avec vous. Je vous invite vraiment à fermer les yeux si vous le souhaitez. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour chacun de nos frères et sœurs ici présents. Nous voulons te prier pour chacune de leurs vies. Nous voulons faire mémoire, Seigneur, particulièrement des blessures que les uns et les autres peuvent avoir dans le cœur. Jésus, nous te demandons de venir vraiment les guérir, les sauver, durant cette session particulièrement, mais aussi durant toute leur vie. Nous te confions, Seigneur, ceux qui sont appelés au mariage, viens les préparer, viens les restaurer. Nous prions pour leur époux, pour leur épouse, que tu as préparé pour eux. Nous te prions, Seigneur, pour les consacrés dans le célibat qui seront demain au service du mariage, les prêtres, les religieux, les laïcs consacrés. Viens les préparer à être serviteurs de cet amour, de cet évangile du mariage.
Seigneur Esprit Saint, viens visiter chacun aujourd'hui, en son cœur. Viens consoler, viens restaurer, viens guérir les images peut-être blessées de l'amour. Esprit Saint, viens aussi susciter des grands désirs, car notre cœur est fait pour des grands désirs. Viens donner, Seigneur Esprit Saint, une vraie espérance que l'amour est un appel magnifique. Et qu'il est possible avec toi. Et Marie, viens aussi par ta douceur maternelle éclairer chacun, tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui ne savent pas bien comment avancer. Viens avec eux, à côté d'eux, par ta douce présence maternelle, entoure-les de ta tendresse.